Donc, en fait, moi, je vais parler d'oxygène et l'idée générale, c'est de revoir, en fait, quelles sont aujourd'hui, sur la base des recommandations les plus récentes, les directives concernant l'oxygène et quels sont les points aussi qu'il est bon d'avoir à l'esprit quand on est clinicien, puisqu'il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de zones de doute, si vous voulez, dans l'utilité de l'oxygène. Ici, ça, c'est un diapo de l'ANTADIR. L'ANTADIR, c'est l'Association nationale pour le traitement à domicile de l'insuffisance respiratoire, qui montre donc en vert l'oxygène. On voit que c'est quand même clairement le mode de traitement pour l'insuffisance respiratoire qui est le plus largement prescrit. Donc ça, c'est ce que je me proposais de couvrir pendant cet atelier. On va parler donc essentiellement de pour qui et comment on prescrit l'oxygène, quelle est l'utilité de l'oxygène de déambulation, quelle est l'utilité de l'oxygène lors de ventilation. On parlera aussi d'oxygène et tabac. Ce que je peux faire, monsieur, c'est que moi, je vous laisserai ma carte et je peux vous envoyer le topo si jamais si ça vous intéresse. Alors, tout a commencé finalement dans les années 80, enfin pas vraiment. L'utilisation médicale de l'oxygène, elle date de la guerre de 14-18 et puis des insuffisances respiratoires liées à l'exposition à des gaz toxiques. Mais disons, du point de vue médical, les deux grandes études qui ont créé les bases en fait de l'oxygénothérapie, c'est la Nocturnal Oxygen Therapy Trial américaine en 1980. Ce qui est important, c'est de se souvenir qu'en fait la moyenne d'âge des patients qui ont été enregistrés là était de 65 ans. Donc c'est très important pour la suite. Et donc cette étude a montré, comme on le verra dans un instant, que l'oxygénothérapie dite continue, c'est-à-dire en fait effectivement à 19 heures sur 24, offrait un bénéfice sur la mortalité par rapport à l'oxygénothérapie uniquement 12 heures sur 24, qui était clairement significative. Il n'y avait que des COPD et on verra que les fumeurs n'étaient pas exclus. La deuxième étude, qui paraît l'année suivante, en fait, est une étude anglaise du Medical Research Council, qui, elle, a regroupé des gens un peu plus jeunes. Tous avaient moins de 70 ans. À nouveau, ça, c'est important. Et l'âge moyen était de 58 ans. Et ici, donc, c'était une étude absence d'oxygène versus 15 heures par jour. Alors, qu'est-ce que ces études ont montré? Eh bien, voilà donc les contrôles de l'étude du Lancet, donc l'évolution spontanée sans oxygène de ces BPCO sévères, et voici le gain en survie lorsqu'on leur donne de l'oxygène 15 heures par jour. Donc, on voit deux choses. On voit que pendant les 2 premières années, finalement, il n'y a pas de bénéfice sur la survie. Les différences sont non significatives pendant les 2 premières années. Donc, on a affaire en général à des gens qui ont un très mauvais pronostic. Ça veut dire que la discussion autour de l'apport de l'oxygène, elle a un certain nombre de limites et il faut attendre, en fait, qu'on arrive à 5 ans de suivi pour qu'il y ait vraiment une différence qui soit substantielle en termes de survie. Et donc maintenant, voici l'étude du NOTT, donc l'étude américaine. Ça, ce sont les patients qui ont été inclus et qui ont eu de l'oxygène juste 12 heures par jour. Et puis, ça, ce sont les patients qui ont eu 19 heures par jour. Alors ici, c'est quand même très différent. Probablement, ça a affaire aussi à une sélection de la population. Mais on voit qu'à 19 heures par jour, donc c'est censé être de l'oxygène continu, on a vraiment un effet qui est apparemment substantiel sur la survie quand on prend cette population. Alors, si on met tout ça ensemble, on arrive à la chose suivante. Voici les témoins de l'étude du MRC. Comme on voit sur ce diapo, en fait, il n'y a pas de différence entre les gens qui reçoivent 12 heures d'oxygène par jour et la population témoin sans oxygène. Donc, 12 heures d'oxygène par jour, a priori, ça ne sert à rien. Et puis, voici l'étude donc du MRC, le groupe traité. Donc, on voit que 15 heures par jour, c'est pas mal. C'est clairement mieux que 12 heures. 12 heures, ça n'apporte rien. Et puis, l'oxygène dit continu à 19 heures par jour, c'est encore mieux. Donc ça pose les bases, disons, de toute la discussion autour de l'oxygénothérapie. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir dans la vraie vie qu'est-ce qui se passe maintenant. Ça, c'est un travail qui a été publié par le groupe de Nicolas Roche dans la Revue des maladies respiratoires, que vous avez peut-être vu passer, et qui montre, en fait, dans une cohorte assez conséquente de 550 patients, la survie actuelle de ces patients sous oxygénothérapie. Donc tous ces patients sont traités. Et si vous regardez simplement le trait au milieu, vous voyez qu'en fait la survie médiane dans cette population est de l'ordre de 22 à 23 mois, ce qui est en fait la survie des groupes témoins dans les deux études précédentes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous voyez la moyenne d'âge, ici elle est de 73 ans. Donc on a affaire à des gens qui sont de plus en plus âgés. Ces gens n'étaient simplement pas intégrés dans les deux études initiales. Et donc aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que l'oxygénothérapie s'adresse à des patients qui ont 10, 15, 20 ans de plus que les patients dans les études originales. Et on n'a aucune idée, en fait, de ce qu'on fait en termes de survie pour ces populations de gens qui ont 80, 85 ans, qu'on met couramment sous oxygène. Alors, à qui est-ce qu'on doit donner de l'oxygène? Eh bien, tout ce que vous allez voir là pendant ces prochaines trois quarts d'heure, ou disons 40 minutes, sont des données qui sont les données de l'étude du British Thoracic Society, ou bien plutôt les recommandations 2014. Donc, c'est la mise à jour sur la base de la littérature la plus récente. Alors, on retrouve les critères que vous connaissez bien. À qui est-ce qu'on doit prescrire de l'oxygène? Eh bien, à des gens qui sont en état stable et qui ont une PO2 qui est inférieure à 55 mm de mercure ou 7,3 kPa. Chez ces personnes-là, l'oxygène montre un bénéfice sur la survie, on a vu les études, et améliore l'hémodynamique, c'est-à-dire diminue en fait la survenue d'une hypertension pulmonaire secondaire. Et ça, c'est une évidence de type A. Donc, évidence de type A. Donc, deuxième groupe qui nous intéresse, les gens qui ont en fait une PO2 inférieure à 8 kPa ou à 60 mm de mercure avec une évidence d'implication du cœur droit, c'est-à-dire des œdèmes des membres inférieurs, bonjour, bienvenue, et ou une polycythémie ou une hypertension pulmonaire avérée. Alors dans cette population-là, c'est aussi une évidence de type A, hein, c'est-à-dire des études randomisées contrôlées, eh bien on a un bénéfice de l'oxygénothérapie dès une valeur seuil de 60 mm de mercure. Ce qu'on sait, c'est que parmi les patients qui sont mis sous oxygène, une grande majorité, malheureusement, sont mis sous oxygène juste au décours d'une exacerbation. Et entre un tiers et une moitié d'entre eux, après 1 à 3 mois, vont sortir des critères de l'oxygène. Donc c'est très important pour nous, soit de décider qu'on prescrit une oxygénothérapie qui est temporaire, dont l'indication doit être réévaluée à la sortie de l'hôpital, soit de ne prendre la décision d'une oxygénothérapie que 1 à 3 mois, idéalement 3 mois après une exacerbation aiguë. Alors voici un petit peu le paysage de l'oxygène à nouveau, donc selon les données de l'Antadir, ce qui regroupe quand même quelques dizaines de milliers de patients. Ce qu'on voit, c'est qu'au fil des années, finalement, en passant de 2004 à 2013, on a une petite diminution de la part de l'oxygénothérapie isolée qui est remplacée par la PPC et la PPC avec oxygène. Et ça, c'est un nouveau groupe qui est de mieux en mieux identifié. Ce sont les patients avec ce qu'on appelle un overlap syndrome, c'est-à-dire les BPCO qui ont un syndrome d'apnée du sommeil et qui sont très souvent obèses et qui posent des problèmes très particuliers de prise en charge. Et vous voyez que ce groupe, c'est le groupe en rouge, et c'est un groupe qui prend vraiment une part maintenant de plus en plus importante dans le suivi ambulatoire de l'insuffisance respiratoire. Ensuite, donc, il y a toutes les autres pathologies pour lesquelles, couramment, nous avons tous l'habitude de prescrire une oxygénothérapie à domicile. Alors, prenons les patients avec une pneumopathie interstitielle diffuse, une fibrose pulmonaire, une pneumopathie interstitielle non spécifique. Eh bien, ces gens, quand ils arrivent à un degré d'hypoxémie, il nous semble naturel de prescrire, selon les mêmes critères que ceux qu'on a vus pour la BPCO, une oxygénothérapie au long cours. Comme vous le voyez sur ce dia, pour toutes les pneumopathies interstitielles, il n'y a aucune étude randomisée contrôlée qui valide cette pratique. Donc on est dans une évidence de niveau D, c'est-à-dire des avis d'experts, et ben, on pense qu'on fait le mieux possible. C'est logique, de toute façon on se préoccupe du confort de nos patients, mais disons qu'on est dans une indication qui est relativement mal stabilisée, disons du point de vue de sa crédibilité scientifique. Et ça, c'est le cas pour les pneumopathies interstitielles, mais on va le voir, c'est le cas pour, en fait, toute une série d'autres pathologies. Prenons, par exemple, la mucoviscidose, donc la fibrose kystique. Les critères que l'on retrouve dans les recommandations, et ça, ce sont les recommandations internationales, hein, c'est des recommandations anglaises, mais aussi américaines, ou celles de la SPLF, eh bien, on retrouve les mêmes valeurs seuils. Donc on a fait un copier-coller depuis les recommandations pour la BPCO, mais c'est une évidence de type D, c'est-à-dire c'est uniquement en fait un avis d'expert. Donc c'est un consensus, mais il faut savoir que finalement, si on est dans une négociation difficile avec un patient et qu'il refuse ou il veut différer ce traitement, ben, on n'est pas en train de faire faux, on est en train d'adapter le mieux possible les connaissances qu'on a sur cette population d'insuffisants respiratoires. Autre population à laquelle on a affaire de plus en plus souvent maintenant, ce sont les sujets avec une hypertension pulmonaire. Alors on sait que ces 10 dernières années, le nombre de molécules disponibles pour traiter les hypertensions pulmonaires, en particulier idiopathiques, a explosé. Hein. On a toute une panoplie de substances maintenant à disposition. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de ces patients, même sous traitement, vont avoir besoin d'une oxygénothérapie parce que le propre de leur maladie, c'est de désaturer très rapidement, d'abord à l'effort et puis ensuite au repos. Et là, vous voyez qu'il y a un consensus, à nouveau, c'est un consensus d'experts, qui est de proposer de l'oxygène à tout patient avec une hypertension pulmonaire en période stable et ayant une PO2 inférieure à 60 mm de mercure. Donc on utilise la limite haute des deux premières études qu'on a évoquées tout à l'heure. À nouveau, pas d'études randomisées et contrôlées. Et puis, le problème, c'est qui va faire ces études randomisées et contrôlées maintenant, puisqu'on a de la peine à imaginer un bras contrôle où on laisserait des gens avec une hypertension pulmonaire ou une fibrose pulmonaire sans oxygène pendant une période de plusieurs années. Ensuite, il y a dans les groupes de sujets insuffisants respiratoires, eh bien, il y a tous ceux qui ont une défaillance restrictive hypercapnique, que ce soit les obèses, les atteintes pariétales, donc les syphoscolioses, les anciennes séquelles de tuberculose, enfin les status après résection multiple. Eh bien, pour la plupart de ces patients-là, en fait, on va se retrouver dans une indication plutôt de type soutien ventilatoire en pression positive, puisque ces patients ont le plus souvent une hypoventilation alvéolaire plus ou moins isolée et vont répondre beaucoup mieux à une ventilation non invasive qu'à l'oxygénothérapie. Il y a un groupe qui est intéressant aussi, c'est celui des apnées centrales lors de décompensation cardiaque. Donc je pense que vous avez tous reçu l'avalanche d'emails et d'avis de toutes les sociétés savantes concernant l'étude CERV-HF qui a montré en fait que pour les patients souffrant d'une respiration périodique ou d'apnée centrale liée à une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection inférieure à 45%, eh bien, il y avait une surmortalité chez les patients qui avaient été mis en ventilation cerveau-assistée. Alors, si je parle de ça, c'est parce qu'un traitement alternatif pour ces apnées centrales, comme vous le savez, c'est l'oxygénothérapie. L'oxygénothérapie qui va en fait avoir un effet significatif sur l'index d'apnée-hypopnée dans au moins 50% des cas, donc ça s'avère être un traitement très simple, et l'oxygène ou l'oxygène combiné avec la PPC vont être certainement les traitements les plus proposés dans les années qui viennent, jusqu'à ce qu'on ait clarifié un petit peu la place du support ventilatoire et mieux compris les résultats de cette étude CERV-HF. Et puis il y a l'oxygène palliatif. Alors en principe, dans toutes les sociétés nationales ou internationales, on laisse toujours une petite place pour l'oxygène en utilisation palliative. Et là, on sort évidemment des critères. Et en principe, on prescrit de l'oxygène sur une base purement symptomatique chez des gens qui ont un cancer, une lymphangite carcinomateuse, une pneumopathie interstitielle terminale, une insuffisance cardiaque terminale. Mais évidemment, alors là c'est très important de ne prescrire l'oxygène que si en fait l'oxygène apporte un bénéfice réel et mesurable. Donc il ne faut pas qu'on encombre un patient qui est dans une situation palliative avec un traitement qui ne lui procure pas de bénéfice. Donc ici, on va être beaucoup plus attaché à utiliser des évaluations de la dyspnée, des échelles visuelles analogiques, enfin des systèmes simples qui nous permettent de dire, mon patient, avec une fibrose terminale, il a besoin de cet oxygène, ce qui sera quand même la plupart du temps le cas. On sait que le bénéfice de l'oxygène est très mal corrélé à la saturation. Vous pouvez avoir un sujet emphysémateux en fin de course qui a 95 de saturation et qui est bien soulagé par l'oxygène, comme vous pouvez avoir un sujet BPCO obèse qui a 88 ou 85 de saturation et qui n'est pas du tout soulagé par l'oxygène. Donc l'oxygène en tant que tel, ou du moins la SPO2 ou la SAO2, ne sont pas des bons paramètres pour estimer à l'avance, a priori, le bénéfice de l'oxygène, et on doit le tester in vivo. Et puis, bien sûr, toujours avoir à l'esprit que chez ces patients-là, donc quand on est dans un cadre palliatif, on doit bien sûr évoquer et envisager l'utilisation des opiacés à petite dose, la ventilation non-invasive qui peut être parfois plus utile que l'oxygène ou combinée avec. Prenez par exemple une fibrose terminale, ce sont des poumons qui ont perdu toute compliance, qui sont devenus extrêmement rigides, et ces gens-là, quand on les ventile de façon purement symptomatique, on diminue un peu leur travail respiratoire, et ça a un effet majeur sur la dyspnée quand on y arrive. Il y a tout un groupe en Italie qui s'intéresse beaucoup à ça, avec un très bon papier par Stefano Nava dans Lancet Respiratory Disease, qui parle uniquement de cet aspect justement des soins palliatifs chez ces patients très avancés. Donc si on est en pratique générale et qu'on n'est pas en pratique hospitalière, comment est-ce qu'on va identifier les patients qui sont à risque finalement d'avoir besoin d'une oxygénothérapie? On va utiliser la saturométrie que tout le monde a, souvent les patients l'ont plus que nous, et puis on va utiliser la valeur de 92%. Pourquoi 92%? Parce que en fait la saturométrie, comme vous le savez, est un outil très, très inexact malheureusement, avec une très grande variabilité des mesures, et on considère que les valeurs sont corrélées à la SAO2, donc celle mesurée par voie artérielle, avec une déviation standard, et je parle juste de la déviation standard, de plus ou moins 2%. Donc à 92%, on se situe en fait a priori quelque part entre 90 et 94%. Et donc la limite est placée à 92% pour la détection, voire même à 94% pour des gens qui ont des signes d'insuffisance cardiaque droite ou d'hypertension pulmonaire. Donc ces gens-là doivent impérativement être référés pour avoir une gazométrie et une évaluation dans l'idée d'une possible oxygénothérapie. À nouveau, on l'a déjà évoqué, il faut essayer d'éviter de faire ces évaluations quand on est juste dans le vif d'une exacerbation, parce que là, on va surtraiter les gens et on sait qu'on a besoin d'une longue période pour que les gens récupèrent non seulement sur le plan clinique, sur le plan des fonctions pulmonaires, mais sur le plan de l'oxygénothérapie. Donc, considérer que 8 à 12 semaines sont un délai minimal avant de prendre la décision de mettre en place l'oxygène, et que la société britannique, la Thoracic Society, recommande deux échanges gazeux, deux mesures de la gazométrie à au moins 3 semaines d'écart. Pourquoi ces précautions? Parce que, comme vous vous en doutez bien, et on le sait tous dans notre pratique, finalement, mettre de l'oxygène à un patient, c'est pas vraiment une très bonne nouvelle. C'est vraiment quelque chose qui va changer profondément sa qualité de vie. C'est quelque chose qui va être un poids constant, avec ce fil à la patte qu'il doit avoir tout le temps, avec le diktat de ces 15 heures au minimum d'oxygénothérapie. Donc c'est vraiment une décision qui doit être prise en toute connaissance de cause, et on doit peser le poids, l'impact que ça a sur la qualité de vie de ces patients. Pour tous les patients chez lesquels on met de l'oxygène et où on a une augmentation de la PCO2 de plus d'un kilopascal, il faut vraiment évidemment faire très attention. Et nous recommandons en fait, quand c'est possible, d'avoir recours à des mesures transcutanées de CO2 dans les centres où ça existe. Sinon, évidemment, il faut faire ce que vous connaissez tous, à savoir une oxygénothérapie contrôlée pour déterminer si la personne atteint en fait des valeurs critiques de PCO2 sous le débit d'oxygène qui est nécessaire ou pas. Et si on est dans la première situation, eh bien on va devoir envisager une pression positive, on va devoir envisager de ventiler ces personnes pour pouvoir les oxygéner de façon suffisante sans les mettre en danger d'une insuffisance respiratoire hypercapnique. Alors quelques données de la vraie vie. Voici une étude qui a été faite justement par Jean-Louis Pépin, qui date un petit peu, mais qui reste en fait finalement très actuelle dans les résultats qui sont proposés, puisque vous avez ici une cohorte de 930 patients, donc un nombre de patients assez conséquent, et vous avez l'observance au traitement dans la vraie vie, répertoriée à partir des compteurs sur les extracteurs d'oxygène. La première chose que vous voyez, c'est qu'il y a 15% de fumeurs actifs dans cette cohorte, et ça c'est juste sur la base d'une enquête, donc on n'a pas fait des mesures de cotinine urinaire, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait vous voyez qu'il y a un nombre très conséquent de patients qui n'arrivent pas à ce fameux seuil des 15 heures et qui utilisent finalement leur oxygène moins de 15 heures par jour. Et pour ces patients, si on se base sur les deux études qu'on a vues au début de la présentation, on peut vraiment se demander ce qu'on fait, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment en train de changer leur devenir, est-ce qu'on est en train d'améliorer leur pronostic. Les deux études Princeps du NOTT et du MRC nous disent a priori que non. Ceci montre la prescription, donc il ne s'agit pas de l'utilisation, il s'agit de la prescription d'oxygène en France, toujours dans les régions qui sont suivi ou sous le contrôle, si on peut dire, de l'Antadir. Et là, vous avez donc l'oxygène en nombre d'heures d'utilisation par jour. Et ce qu'on voit, c'est que les groupes rouges et jaunes qui sont à gauche de votre écran, qui correspondent à un 15%, des prescriptions, sont des prescriptions qui sont en fait inappropriées. C'est-à-dire, ce sont des prescriptions d'oxygène pour 10 heures, 12 heures, comme ça, sans qu'il y ait de raison vraiment validée dans la littérature scientifique pour cette prescription. Alors, donc, on retiendra que le strict minimum syndical de 15 heures par jour est vraiment un sine qua non, qu'en dessous de ces valeurs, on ne sait pas ce qu'on fait, et qu'on n'a clairement pas l'impression qu'on a un effet sur le long terme, en termes de survie. À nouveau, on se base sur des études qui datent du début des années 80 et qui, comme on l'a vu, n'ont recruté que des gens qui avaient, pour l'essentiel, moins de 70 ans. Donc on a affaire à des gens qui sont beaucoup plus jeunes que notre patientèle actuelle. L'oxygène, on dit toujours aux patients, plus vous le prenez, mieux c'est. Et vraisemblablement, le fait d'avoir une oxygénothérapie continue, 24 heures sur 24, est ce qui va en fait procurer le plus de bénéfices en termes de survie, avec un débit qui doit être ajusté de façon à avoir une SpO2, donc une saturation avec un pulse oxymètre, qui est supérieure à 90% au repos. Et puis, il y a donc deux recommandations qui sont des recommandations d'experts, qui ne sont pas basées sur des études, mais qui font un certain sens. C'est de dire que chez les patients qui ne sont pas hypercapniques, on devrait augmenter de façon arbitraire le débit d'oxygène d'un litre pendant la nuit. La recommandation est basée sur l'idée qu'on a tous une hypoventilation alvéolaire physiologique, et puis que chez vous ou moi, normalement, ça fait baisser, ça fait augmenter la PCO2 de 3-4 mm de mercure et baisser la PO2 d'à peu près la même chose. Et chez ces patients qui sont juste sur la portion raide de la courbe de dissociation de l'hémoglobine, ça peut faire un changement substantiel dans la saturation moyenne. Donc, ça fait du sens. D'autres recommandent de vérifier en fait la saturométrie nocturne par une oxymétrie de pouls avant de faire cet ajustement. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il semble opportun de s'intéresser à ce qui se passe pendant la nuit pour s'assurer qu'on a une saturation qui est effectivement au-dessus de 90%. Après, il y a tout le contexte des visites qui doivent être faites par un team spécialisé. Alors là, tout dépend évidemment de la logistique qu'on a à disposition. Ceci, ce sont les recommandations de la BTS, donc ce sont des recommandations relativement raisonnables. C'est que les patients soient vus une première fois 3 mois après la mise sous oxygène, et puis ensuite à un rythme de tous les 6 à 12 mois, selon la stabilité de leur état clinique, avec des visites à domicile d'un service infirmier ou technicien spécialisé, ce qui est en général offert par les différents prestataires qu'on a par exemple ici dans le hall d'exposition. Alors comment est-ce qu'on propose l'oxygène ? Eh bien, on le propose sous 3 formes, les extracteurs, l'oxygène liquide Et puis les bouteilles évidemment sont devenues un petit peu dépassées par des technologies plus récentes, mais enfin elles gardent une utilisation parfois dans des situations très très concrètes, très simples, comme par exemple certains patients pour un vol en avion, ou bien des gens qui déambulent très très peu et qui veulent juste avoir une petite réserve pour le moment dans le mois où ils vont sortir voir leur famille. Donc le premier appareil, le plus couramment prescrit, et on en a plusieurs ici en exposition, c'est donc l'extracteur d'oxygène. C'est l'appareil le plus ancien, c'est le système le plus largement utilisé. Le principe, comme vous le savez, c'est de prendre de l'air ambiant, de le faire passer à travers un filtre à l'aide d'un compresseur. Ce filtre extrait l'azote et restitue de l'oxygène avec une concentration d'environ 95%. Et ce système est capable de générer des débits qui vont jusqu'à 4 litres pour la plupart des anciens appareils. Et puis, avec les nouvelles générations, on arrive à avoir des débits de 5 litres par minute, voire même 6 litres par minute. Et il y a, dit-on, un appareil que nous n'avons jamais testé, mais qui serait capable de générer un débit de 8 litres. Autant dire que dans la situation la plus courante, avec les extracteurs ou les concentrateurs qu'on a à disposition, il faut compter sur un débit qui est fiable à 4 litres, et au-dessus de 4 litres, on commence à avoir quand même une variabilité de la FiO2. Ce sont des appareils qui sont extrêmement astucieux, parce qu'il n'y a rien de plus simple que de brancher un extracteur sur une prise de courant, pour autant qu'on ait du courant, évidemment, et qu'il n'y ait pas d'instabilité de courant. Donc ça dépend des pays, des environnements dans lesquels on est. Et puis, le système demande un entretien qui est vraiment minimal, et ces appareils sont capables de tourner pendant des dizaines de milliers d'heures de façon continue, avec un taux de panne qui est quand même extrêmement faible. Ils sont encombrants, ils font du bruit. C'est vraiment comme avoir un vieux frigo avec les vieux compresseurs dans sa chambre à coucher. Ça fait un bruit qui est vraiment assez embêtant. Donc les gens doivent avoir en fait un tuyau qui leur permet d'avoir le concentrateur juste à l'extérieur de la chambre à coucher pour ne pas être gênés par les 45, 48, 49 décibels que font ces appareils quand le compresseur tourne. Et puis, évidemment, c'est pas très pratique pour la déambulation, quoique on voit maintenant, et il y en a qui sont en exposition, des concentrateurs stationnaires. Je parle pas des concentrateurs mobiles qui pèsent environ 14 kilos. Donc, ça devient finalement le poids d'une moyenne valise. Ça commence à être transportable dans le coffre d'une voiture sans trop de difficultés. La grosse nouveauté, c'est les concentrateurs portables. Ça, ce sont des appareils qui sont absolument géniaux, qui sont donc vraiment faits pour le patient mobile qui part en vacances ou qui va, à sa maison de campagne, ou bien qui simplement a une vie qui fait qu'il doit se déplacer régulièrement d'un endroit à l'autre. Et alors, ces systèmes portables qu'on va voir dans un instant, il y en a qui sont exposés là, sont des systèmes qui pèsent entre 4,5 kg et 9 kg. Ils sont en général sur un système à roulette, un petit chariot. Ils sont capables de donner de l'oxygène en continu jusqu'à 3 litres au grand maximum. Alors c'est ça leur grande limitation. On va y revenir dans un instant. Donc sinon, ils vous affichent un débit de 6 litres, mais c'est de l'oxygène pulsé. Et c'est très très différent, puisque c'est de l'oxygène pulsé uniquement pendant la phase inspiratoire, ce qui n'apporte pas du tout, en fait, la même compensation de la désaturation que de l'oxygène continu. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce sont des appareils extrêmement astucieux, mais que si on veut vraiment savoir pour un patient lambda ce que ce type de dispositif apporte, il faut le tester avec une saturométrie et un test de marche, un test d'effort, pour savoir si le système est adapté. Donc vous avez là-haut le système, le principe de l'extracteur, de tous les extracteurs d'oxygène. Hein, vous voyez l'entrée d'air, le compresseur, le passage par le filtre moléculaire au zirconium qui extrait l'azote. Et puis ensuite, en général, c'est un double système de filtrage. Pendant qu'un filtre est utilisé, l'autre est purgé pour éliminer l'azote. Et puis, tout ça passe par une humidification standard à l'eau froide. Et vous avez typiquement un appareil déjà d'une ancienne génération ici sur la photo de gauche. Et puis là, ce que vous voyez, ce sont donc les nouveaux systèmes portables. Vous avez à gauche ici l'Eclipse, qu'on utilise assez largement, qui est un appareil assez fiable, assez intéressant, et qui, lui, donne un débit d'oxygène continu à 3 litres. Le petit ici, l'Inogen, donne un débit continu à 2 litres, si je ne me trompe, et à 6 litres affichés avec oxygène pulsé. Donc il ne faut pas considérer les deux choses comme étant équivalentes. Et ça, ce sont d'autres dispositifs sur le marché. Donc on voit que c'est un marché qui est en train d'exploser. Évidemment, avec ça, on peut aller circuler en voiture, on peut prendre l'avion, c'est autorisé sur les avions. On peut, donc pour les gens qui sont mobiles, et même s'ils le sont rarement, ça représente quand même un plus dans la liberté de mouvement. Et alors ceci, c'est un système que vous connaissez peut-être, qui est assez astucieux. C'est un système qui permet de contourner la nécessité de remplir des bonbonnes. Donc vous avez ici un extracteur d'oxygène sur lequel il y a une unité qui, au fur et à mesure qu'on fabrique de l'oxygène, en dévie un petit peu vers une petite bonbonne portable et va finalement générer de l'oxygène à, pas tout à fait 200 bars, mais vous voyez ici donc les pressions que ces concentrateurs peuvent générer. Donc vous avez des petites bonbonnes qui sont entre 140 et 200 bars à 2 litres, ce qui va faire donc 400 litres d'oxygène, ce qui permet, quand cette personne sort de chez elle et qu'elle n'utilise plus son extracteur, d'avoir 400 litres à 2 litres par minute. Ça lui fait à peu près 3 heures d'autonomie. C'est quand même un système qui est assez astucieux et qui est une alternative intéressante à l'oxygène liquide, dans la mesure où, du point de vue infrastructure, c'est beaucoup, beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins lourd et beaucoup moins cher. Donc ça, c'est une technologie à suivre. Je pense que dans les pays occidentaux, c'est une technologie qui ne se développe pas beaucoup parce que on a les moyens, et puis l'oxygène liquide, comme on va le voir dans un instant, est finalement beaucoup plus simple à utiliser. Mais dans les pays où il n'y a pas cette facilité de distribution de l'oxygène liquide, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc deuxième grande forme de distribution de l'oxygène, c'est l'oxygène liquide. Comme vous le savez, l'oxygène à moins 183 degrés, donc assez froid, devient liquide. Et un litre d'oxygène liquide, c'est 850 litres d'oxygène. Donc c'est en fait un gain énorme. Je vous rappelle que un litre d'oxygène à 200 atmosphères, c'est 200 litres. Donc on gagne 4 fois en termes de volume la situation de l'oxygène en bonbonne quand on utilise de l'oxygène liquide. Et donc il faut se souvenir que le problème avec l'oxygène liquide, c'est que c'est un système qui n'est pas pressurisé. Donc c'est un système qui fonctionne avec une évaporation constante, et de l'oxygène est sans arrêt en train de sortir pour éviter la surpression à travers un petit circuit qui permet son réchauffement et donc sa transformation de sa phase liquide à sa phase gazeuse. Et donc si vous avez une citerne qui est pleine d'oxygène liquide et que vous la laissez pendant 2 semaines, en 2 semaines elle est vide. Et si vous avez une unité portable que vous avez remplie à 9 heures du matin et que vous l'utilisez pas jusqu'à 9 heures le soir, à 9 heures le soir, elle est vide. Donc en fait, c'est de l'oxygène qu'on doit utiliser tout de suite. Et ça, c'est une limitation pour la déambulation. Ça veut dire que la personne qui va sortir pour faire ses courses ou pour aller au bistrot avec son oxygène de déambulation, elle doit charger son unité avant de partir et pas le faire la veille le soir ou pas le faire par quelqu'un d'autre pour des raisons de force, par exemple. Donc l'oxygène liquide, ce sont des systèmes qui ressemblent à ceci, pour ceux d'entre vous qui connaissent pas ça. Donc ce sont des espèces de gros thermos qu'on a à domicile et qui sont changés toutes les 2 semaines, à moins d'avoir un débit d'oxygène très élevé. Le gros avantage, c'est que vous pouvez avoir un débit d'oxygène qui est facilement de 6 litres, sur certains systèmes jusqu'à 10 litres. Donc ça, c'est intéressant pour les gros insuffisants respiratoires, pour les fibroses pulmonaires, pour des situations de end-stage lung disease. Et puis, sur ces unités donc fixes, vous chargez les petites unités portables. Il faut savoir que quand on charge l'unité portable, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas fait, c'est un truc assez spectaculaire. C'est-à-dire, vous devez d'abord être assez grand pour mettre l'unité portable sur l'unité de base. Il faut pouvoir l'enfoncer, activer le clip, et à ce moment-là, pendant 1 minute et demie, ça fait un bruit d'enfer, ça fume de tous les côtés, et pour des gens qui sont âgés, c'est tout à fait effrayant. J'ai une vidéo très amusante, mais que je n'aurai pas le temps de vous montrer maintenant, mais d'un paysan vaudois, donc de la région du lac Léman en Suisse, chez qui arrive le distributeur d'oxygène liquide, et puis il voit arriver une grosse citerne comme ça qu'on pose dans son hall, qui fume, et puis il dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, il commence à avoir peur, ça fume parce que c'est l'évaporation constante, et ensuite il voit le monsieur faire la démonstration de l'oxygène liquide avec l'unité portable, il entend ce bruit, et il le raconte avec un accent vaudois, c'est absolument extraordinaire, et il est pris d'une peur panique, et lui et son épouse se réfugient dans le salon, et donc ils ont demandé au monsieur d'embarquer tout ça pour dire que l'oxygène liquide, c'est une prescription qui nécessite une formation, qui nécessite impérativement que les gens y soient exposés lors d'une hospitalisation ou lors de séances d'enseignement électives pour qu'ils aient pas ce genre de peur panique, parce que c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. L'oxygène transtrachéal, j'en parle brièvement parce que c'est quelque chose qui existe encore dans certains centres. En Suisse, on a un seul centre qui fait toujours ça. Le principe de l'oxygène transtrachéal, c'est comme vous le voyez ici, de mettre un petit cathéter qui fait 16 French, directement dans la trachée, en anesthésie locale, avec un petit dilatateur. C'est un système qui est assez simple à poser. Nous, on en a mis quelques-uns pendant quelques temps. Le gros avantage, c'est que vous doublez l'efficacité de l'oxygénothérapie. Si vous avez un débit à 4 litres sur l'oxygène aux lunettes, vous pouvez passer à 2 litres sur le cathéter transtrachéal, ou à l'inverse, si vous mettez 4 litres sur le cathéter transtrachéal, ça correspond à peu près à 8 litres. Donc c'est très utile pour des gens qui ont des gros besoins en oxygène. Le gros problème, c'est que ça demande quand même une bonne connaissance de la technique, et puis que pendant les premières semaines, voire les premiers mois, il y a une complication qui est redoutée, enfin il y en a deux. Un, c'est le saignement, et deux, c'est la formation de petites boulettes de sécrétion qui s'agglutinent autour de la partie intratrachéale et qui causent à ce moment-là une détresse respiratoire et qui nécessite qu'on sorte en fait le cathéter pour pouvoir expulser le bouchon, sinon les gens suffoquent. Et ces deux complications font que beaucoup de centres ont été un peu refroidis par l'utilisation de cette technique. Et puis, il y a une technique toute récente qui est très intéressante, c'est la technique d'oxygène à haut débit humidifié. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté très intéressante pour l'insuffisance respiratoire, que ce soit en milieu hospitalier ou que ce soit en fait à domicile. Vous avez ici le type d'appareil tout à droite qu'on peut avoir à domicile. Et puis à gauche, vous voyez que les lunettes qui sont utilisées sont des lunettes un peu particulières. Elles sont plus larges et puis en fait, elles sont étanches au niveau des narines. Et l'effet très intéressant, c'est que donc vous avez un débit d'air qui est très important, qui va être au moins analogue à celui du patient. Vous pouvez monter jusqu'à 70 litres minute de débit d'air, ce qui évite en fait la dilution qu'on a avec les masques traditionnels, les masques à effet Venturi. Donc vous gardez une FiO2 qui est tout à fait bien conservée, et puis cet air, il est saturé en vapeur d'eau, donc vous avez une humidification maximale, et le débit d'oxygène sur ces petites lunettes vous assure une PEP, hein, une pression positive de l'ordre de 3 à 7 cm d'eau, et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par les patients, qu'ils soient obstructifs ou restrictifs, avec donc un bénéfice symptomatique qui est vraiment très intéressant. Alors, ces systèmes en milieu hospitalier, c'est le système OptiFlow, et puis à domicile, c'est le système Ervo. Tout ça, c'est Fischer et Peckel qui fait ces dispositifs, et je pense que c'est quelque chose qui va prendre un essor tant en intra qu'en extra-hospitalier. Vous avez ici un petit résumé des bénéfices, donc maîtrise de la FiO2 quel que soit le débit, effet PEP, lavage de l'espace mort avec un petit bénéfice sur le CO2, l'effet PEP ouvre les voies aériennes supérieures comme une PPC, donc c'est vraiment un instrument très intéressant, et voici un peu à quoi ça ressemble. Évidemment, c'est un système assez encombrant. Et la limitation quand on a ça à domicile, c'est que donc vous devez avoir un statif avec un système d'hydratation, puisque ça consomme beaucoup d'eau, hein, pour hydrater donc tout ce volume d'air. Et donc le système, en fait, est un peu contre-productif en termes de mobilisation. Les gens doivent être assis ou au lit lorsqu'ils utilisent ce dispositif. Donc on a clairement affaire à quelque chose qui se destine plus à des gens qui sont dans une situation, on va dire, terminale ou en tout cas très très avancée de leur insuffisance respiratoire. Néanmoins, ne serait-ce que dans les phases aiguës ou pour des gens qui sont très très dyspnéiques, ce sont vraiment des dispositifs qui méritent qu'on y accorde une certaine attention. Si vous avez un dispositif que vous connaissez pas, que vous avez un représentant qui vient vous voir, que vous avez un prestataire qui vient vous voir, je vous recommande d'utiliser ce site. Ce site est extrêmement utile parce que à peu près tous les instruments qui sont sur le marché, et ce dans la plupart des pays, sont répertoriés et font l'objet d'une visite technique approfondie et indépendante par l'équipe de l'Antadir. Et donc, vous allez simplement sur le site de l'Antadir, vous vous présentez comme soignant et vous avez pour tous ces dispositifs les caractéristiques techniques objectives, hein, pas celles du fabricant. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour nous comme praticiens. Alors, on en parlait tout à l'heure, l'oxygène nocturne. Est-ce que l'oxygène nocturne a un sens? Eh bien, il n'y a en fait aucune évidence, ou bien plutôt, il y a une évidence que l'oxygène nocturne ne sert à rien. Et cette évidence est de niveau A. Donc, chez des gens qui n'ont pas de jour les critères pour une oxygénothérapie. Donc, si vous avez quelqu'un qui a une PaO2 diurne de plus de 60 mm de mercure, on n'a aucun gain sur la survie ni sur l'hémodynamique à lui prescrire de l'oxygène 12 heures par nuit. C'est un traitement qui est futile. Donc, quand vous êtes en présence de désaturation nocturne isolée, bien sûr, vous êtes pneumologue, il faut les investiguer. Vous allez considérer la possibilité d'apnée du sommeil ou d'une hypoventilation alvéolaire associée à l'obésité. Et ça, ce sont des choses qui font l'objet de traitements spécifiques. Donc, la revue de la littérature nous dit que l'oxygénothérapie de déambulation ne doit pas être offerte ou proposée à des gens qui ne remplissent pas les critères d'une oxygénothérapie à domicile. Elle doit être offerte uniquement à des gens qui sont mobiles et qui vont utiliser cet oxygène de déambulation. Et ça doit être démontré, en fait, idéalement par un test de marche standardisé. Pourquoi ? Parce que, en fait, on se rend compte que quand on prend un patient oxygénodépendant, qu'on lui met de l'oxygène pour faire un test de marche, par rapport à une situation native, eh bien, très souvent, le bénéfice est tout à fait marginal. Et le coût social, le coût personnel de devoir se promener, aller à l'extérieur en ville avec de l'oxygène est énorme. Et donc, on doit être vraiment sûr de notre prestation pour insister sur le fait qu'un patient prenne de l'oxygène lorsqu'il marche, lorsqu'il déambule, lorsqu'il va faire ses courses. Évidemment, s'il s'améliore de façon significative sur le plan symptomatique, on va aussi lui proposer cela. Je saute sur les évidences parce que elles nous disent exactement la même chose et j'aimerais juste rapidement dire deux mots sur l'oxygène et le tabac. Certains d'entre vous l'ont certainement vu, la dernière édition de Breathe, qui est donc un des journaux publiés par la Société européenne de pneumologie, consacre tout un article au risque de l'oxygène et du tabac. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans les indications de la BTS? Eh bien, on nous dit que l'arrêt du tabac doit être discuté et une information écrite doit être donnée à tous les patients lorsqu'on prescrit de l'oxygène, avec un essai systématique de proposer l'arrêt du tabac lors de chaque visite. Ça veut dire que l'oxygène n'est pas formellement contre-indiqué dans une des grandes directives internationales. Et j'aimerais vous montrer juste deux slides. Voilà, ça c'est ce qu'on peut avoir comme type de brûlure chez des gens qui sont sous oxygène et qui, malencontreusement, fument une cigarette. Ce sont des brûlures qui sont absolument terribles, mais qui sont heureusement très rares. Et si on revoit, en fait, la littérature, c'est vraiment très peu de cas qui arrivent à ce genre de situation. Et juste pour nous laisser quelques minutes pour discuter, j'aimerais encore ajouter une chose. L'oxygène sur un ventilateur ou l'oxygène sur un CPAP, pensez toujours à adapter le débit parce que vous avez un effet de dilution qui est très très important, qui est lié au flux généré par le CPAP ou par le ventilateur. Donc c'est très important d'augmenter le débit en fonction de la saturométrie. Voilà, donc si on se résume, l'oxygène doit encore démontrer son bénéfice dans les autres indications que la BPCO, même si on le prescrit et que les sociétés savantes nous le proposent. La décision de mettre les gens sous oxygène doit impérativement être prise en état stable. On doit se rendre compte que c'est un point plutôt négatif pour la qualité de vie des patients. L'oxygène liquide est très efficient pour les gens qui ont une mobilité résiduelle, mais coûte plus cher. Et puis, la question du tabac reste une question ouverte, des aspects moraux, des aspects éthiques, des aspects techniques. Je vous remercie pour votre attention. Il y en a quelques minutes pour les questions.
Merci beaucoup. Est-ce que le débit d'oxygène qui est généré par les appareils électriques reste stable avec de longues rallonges lorsqu'on pense à la liberté de déplacement du patient?
Donc ces appareils en fait ont un compresseur qui est très puissant et donc on utilise couramment en testant les FiO2 des tuyaux de 15 à 20 mètres et avec lesquels on assure un débit qui est tout à fait constant au niveau des lunettes. Donc c'est quelque chose pour lequel le concentrateur est très, très fiable et performant. L'autre chose concernant la stabilité de ces appareils, c'est qu'il est quand même bon de s'assurer qu'un patient qui a un concentrateur ait son appareil contrôlé au minimum une fois par an, parce que tout à coup, ces filtres peuvent dysfonctionner. Et donc, on a des gens qui peuvent en fait prendre très consciencieusement de l'air ambiant sur leurs lunettes sans s'en rendre compte. Donc, mais ça, c'est le prestataire, évidemment, qui doit s'occuper de ça.
Quelle est la partie de la toxicité de l'oxygène au long cours chez ces gens déjà qui sont des insuffisances respiratoires? Il y a quelque chose sur ça?
Ça, c'est une très bonne question. Donc, en fait, il y a deux types de toxicité. Il y a la toxicité de l'oxygène en tant que tel, avec un débit constant, parfois à haut niveau, au niveau de ORL. Donc, évidemment, ce sont des gens qui sont susceptibles de développer des épistaxis, des rhinites sèches, un inconfort au niveau ORL qui est parfois très important et qui peut être la cause d'épistaxis très conséquent. Et c'est une des indications, justement, qu'on retenait pour l'oxygène transtrachéal. Maintenant, en termes de toxicité de l'oxygène, au sens où vous l'entendez comme une évolution vers un ARDS ou vers donc une atteinte pulmonaire interstitielle, évidemment, avec les appareils qu'on utilise ici, on a des FiO2 qui sont relativement faibles. Hein. On est dans du 28 à 30% à tout casser. Mais si vous avez un système de type OptiFlow ou un système ERVO, comme on l'a vu, et puis qu'on a des FiO2 à 50, 60, 70% ou plus, alors évidemment, on rentre dans une potentielle toxicité de l'oxygène, mais l'indication à ces appareils, ce sont des gens qui sont le plus souvent malheureusement en fin de course. Donc, en gros, on retiendra qu'il n'y a pas vraiment de toxicité pulmonaire de l'oxygène en tant que tel.
Est-ce qu'il y a des différences entre l'OptiFlow et l'ERVO? C'est exactement la même technologie? C'est exactement la même efficacité?
Alors, à ma connaissance, l'ERVO, qui est relativement récent hein, sur le marché, n'est pas capable de générer des FiO2 aussi élevés que l'OptiFlow, puisque l'OptiFlow fait du 100%, alors que l'ERVO fait des FiO2 plus faibles. Voilà, je dirais qu'à part ça, finalement, c'est la même technologie, c'est le même système. Comme on l'a vu, c'est vraiment des systèmes assez astucieux, c'est un peu encombrant, c'est un peu high-tech, mais ça vaut la peine d'être essayé chez des patients très dépendants.
Suite à la question de notre collègue, les règles classiques de la toxicité de l'oxygène s'appliquent. Donc c'est les règles classiques de toxicité de l'oxygène, 2-3 litres, c'est bon à long terme. Dès qu'on arrive à des concentrations, à des pourcentages d'oxygène plus élevés, à partir de 5, 6, à ce moment-là, les règles qui étaient connues de toxicité de l'oxygène s'appliquent. Il n'y a rien de différent.
Alors, il n'y a rien de différent. Il y a la précaution, bien sûr, de la réaction en termes de commande ventilatoire et de niveau de CO2. Oui.
Et puis, il y a aussi le fait que toutes ces personnes qui ont besoin de débit d'oxygène supérieur à 4 litres ont des pathologies pulmonaires sous-jacentes qui sont souvent, elles, le facteur qui dicte le pronostic. Ce sont soit des shunts très importants, soit des fibroses très avancées. Donc, finalement, la question de la toxicité de l'oxygène devient très relative par rapport au pronostic de la maladie sous-jacente. C'est exceptionnel qu'on ait des gens qui n'ont pas des poumons très très altérés, qui ont besoin de débit de plus de 3 ou 4 litres avec des lunettes. C'est...